Est-ce qu'on peut dire que c'est l'interview la plus Covid du monde ?
Allez, faisons comme ça. Bienvenue dans l'interview la plus Covid du monde.
Tu veux que je parle de mon confinement ? Je suis confinée à la ferme. On vit en camion pour le moment, donc j'étais confinée sur la ferme. Ce qui ne me change pas grand-chose de ma vie habituelle. Ce qui était un petit peu plus compliqué, c'était y voir clair pour la vente, parce qu'on a commencé nos mises bas juste au moment où on a commencé le confinement. Donc c'était un peu difficile pour nous de nous projeter sur comment on allait pouvoir écouler les fromages. On a été quand même beaucoup sauvés par le magasin de producteurs qu'on a monté en association, donc qui remplit pour le coup vraiment son rôle de magasin associatif, puisqu'on a quasiment tout écoulé là-bas et que les gens se sentaient, je pense, plus en sécurité dans ce petit espace que dans des grandes surfaces. Surtout que les marchés de plein vent ont été mis entre parenthèses. Donc on a bien augmenté nos ventes au magasin et ça nous a quand même bien permis d'assurer le coup. Surtout qu'en début de saison, pour nous c'est toujours un petit peu tendu financièrement, la reprise, qui a quand même 3 mois où on vit que des cochons. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ?
Quand la reprise des marchés s'est faite, c'est un peu,
c'est un peu
étrange.
Bizarre. Oui, il y a une espèce de normalisation de la distance et de la froideur et donc complètement l'inverse pour moi du marché habituel où tu vois tes collègues, tu rigoles avec eux, tu vas boire un café, quand tu débauches, tu vas boire une bière ou un petit lilé en terrasse. Là, non, rien de tout ça. Donc, avec des barrières, les contrôles, les trucs. Bon, moi, ça m'a un peu déprimée, si tu veux, les ambiances flicage. c'est pas trop mon truc. Donc, j'ai un peu mis entre parenthèses en attendant. Mais moi, j'avais la chance de pouvoir le faire grâce au magasin parce que j'ai d'autres collègues qui galéraient financièrement, donc qui étaient de toute façon obligés d'être présents sur place. Donc, c'était un peu moins rigolo pour eux. Donc j'ai fait une pause de 15 jours et après j'ai repris et là maintenant c'est un peu mieux organisé donc c'est pas exactement l'ambiance du marché d'avant mais ça recommence à devenir un peu bon enfant et bon on a tous les masques, les gants mais j'ai envie de te dire ça change pas non plus énormément de ce qu'on fait en alimentaire d'habitude. Voilà, on prend quand même des précautions, on tousse pas sur les fromages même en temps normal donc a priori ça nous change pas des masses.
Et on reconnaît bien là l'humour de la ferme Bacotte. Et oui, si vous vous disiez « Tiens, mais cette voix, je la connais », c'est parce que c'est celle de Marie Fischer que vous entendez dans « La main au panier », l'émission que propose la ferme Bacotte du côté de nos studios Saint-Séverin. Marie devait participer au festival en prenant part à une table ronde avec d'autres productrices locales et Nora Boisouni pour parler des femmes, du terroir, du rapport à la nourriture, de ce qu'on peut faire pour que ce soit moins cata. On en discute dans quelques minutes. Mais revenons pour l'instant à la reprise du marché. Si ça n'a pas tellement changé leur pratique, cette crise sanitaire, est-ce que ça a changé leur rapport avec la clientèle ?
Oui et non, parce qu'il y a des nouveaux clients qui sont apparus, qu'ils ont eu plus de temps et plus d'argent à mettre dans la nourriture, qui est quand même devenu un loisir. C'est drôle, parce que oui, comme les gens n'avaient pas de loisir, bien manger, c'est devenu un loisir, c'est devenu un plaisir. Donc ce qui est plutôt chouette, ça devrait être ça tout le temps. Donc j'espère que ces gens, on va pouvoir les fidéliser grâce à la qualité de ce qu'on fait et par une autre approche, parce qu'ils se rendent aussi compte que faire venir de la nourriture de l'autre bout du monde, c'est pas du tout sécurisant pour eux, et c'est dangereux pour tout. On va pas encore dire du mal du capitalisme, mais un peu. Donc ça ne peut pas fonctionner. Donc ce que j'aimerais maintenant, c'est que les gens ils se rendent compte que ça ne fonctionne pas et qu'il faut arrêter de fonctionner comme ça et qu'il faut installer des gens à côté de chez eux avec de la diversité d'ateliers. Hein. Donc il faut des maraîchers, il faut des éleveurs de chèvres, il faut des éleveurs de moutons, il faut des cochons, des vaches, il faut un peu tout. Et tout ce qu'on a détruit pendant 30 ans de petites structures, ça n'existe plus. Donc c'est un peu difficile aussi du jour au lendemain de retrouver l'offre qu'il y avait sur de l'alimentation locale. Parce que ça revient petit à petit, mais c'est quand même tout intégré à des coopératives. Donc il faudrait réinstaller des nouveaux gens. C'est peut-être l'occasion de faire une petite exode urbaine. Parce que oui, tout le monde a abandonné la campagne, puisque c'était plus un idéal de travailler. Voilà, il fallait avoir les 35 heures, les loisirs, ce qui est normal, hein. Mais bah, la vie à la campagne, elle est quand même d'une autre qualité. On est quand même moins les uns sur les autres. On peut mieux manger, on peut respirer de l'air qui est moins pollué. Voir des petites fleurs, des animaux, de la diversité, être sympa avec ses voisins, enfin, j'espère. Alors qu'à la ville, bah, on est les uns sur les autres et il n'y a pas d'autonomie alimentaire du tout. Ce qui est quand même un gros problème.
Convaincue et convaincante, non. En ce qui me concerne, je repartirai bien à la campagne après cette réponse. Mais bon, la question n'est pas là. Faute de festival, avec Marie Fischer, on a un peu discuté de sa vision, toutes les deux, de sa vision des choses en tant qu'agricultrice, productrice, de son rapport à l'anarchisme, au féminisme, et de l'influence que ses courants de pensée peuvent avoir sur sa pratique.
Ben, ma pratique, si tu veux, je le construis encore. Hein. Je construis encore ma réflexion. C'est parti il y a très longtemps. La défense des races locales, déjà, c'est un point de départ assez important. Les animaux en plein air. On va dire que, pour moi, la perte de l'agriculture que nous, on pratique maintenant, qui a l'air d'être un truc ou complètement utopiste ou complètement arriéré, en fait, c'est complètement l'inverse. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, ces animaux, on les a mis de côté parce qu'on a estimé qu'ils produisaient plus et qu'il fallait du rendement, de la productivité. Donc ces animaux avec qui on vivait, hein, parce qu'il n'y avait pas seulement ce rapport d'outils de production, c'est des animaux avec qui les gens vivaient, on les a complètement mis de côté et il y a des gens qui ont réussi à les sauver en se montant en organisation comme des associations de sauvegarde. Et ces animaux, ils représentent à la fois un monde d'avant et à la fois un monde futur. Parce que c'était des modes de vie qui étaient beaucoup plus lents et respectueux de la nature que ceux qu'on peut pratiquer maintenant. Mais pour moi, c'est aussi l'avenir parce qu'on est, par exemple, sur la ferme Bacotte, sur des mini-structures qui sont en fait reproductibles partout, pas dans exactement la pratique, si tu veux. Il faut s'adapter au territoire sur lequel on est, mais cette mini-structure, nous on vit quand même officiellement avec un truc comme 2,5 hectares, le reste c'est des conventions de pâturage et des prés. Donc cette mini-structure, elle nous permet quand même aujourd'hui de vivre à deux, même si tout le monde trouve que c'est rigolo et que c'est pas du tout ça que j'ai appris à l'école non plus. Donc je pense que la sauvegarde du patrimoine, elle est très très importante et elle s'inscrit du coup dans l'anticapitalisme qui, on le voit bien, les mouvements L214, les mouvements vegan, pour moi c'est aussi des syndromes d'un système qui fonctionne pas, qui exploite aussi bien les gens à l'autre bout de la planète pour faire des céréales avec de l'atrazine qui est interdite en France mais autorisée dans des autres pays, que les animaux qui sont mis en batterie. Enfin, c'est complètement inhumain comme système. Et bon, pour moi, ça va avec le reste. Le féminisme, si tu veux, c'est pour moi un bout d'anarchisme. Ça va avec tout ça, quoi. C'est une philosophie à part entière, au-delà d'être juste un travail. Je sais pas si je suis très très claire. C'est pas facile pour moi de dérouler mes pensées. Et moi, après, je construis aussi mon militantisme tous les jours, hein, en lisant des trucs et en me disant, tiens... Tiens, ça colle quand même vachement bien avec ce que je crois. Je suis pas non plus ultra rodée sur les courants féministes et les courants anarchistes. J'ai quand même quelques bases, mais je le construis tous les jours en m'interrogeant sur ce que je fais. Et je pense que c'est plus important, en fait, continuer à s'interroger et à se dire, est-ce que ce que je fais, c'est moderne? Est-ce que c'est en avance ou est-ce que c'est complètement en retard? Qu'est-ce que ça représente dans un système global, ce que je suis en train de faire? Et je pense que ce qu'on est en train de faire, ça a une valeur. Alors ça aura peut-être pas une valeur tout le temps, parce que je sais pas si au final ce sera le capitalisme qui va gagner, ou si les petites structures pourront devenir vraiment pérennes dans le temps. Mais je l'espère. Voilà. Et j'espère, ouais, que les gens changeront un peu. Même s'il y a beaucoup de gens qui adorent pousser leur caddie, hein, à qui ça suffit d'être juste des pions du système et de pas pouvoir se poser, enfin de pas se poser de questions. Après, il y a aussi l'histoire du coût quand même, parce qu'on nous dit souvent bien manger ça coûte cher. Alors oui et non, hein, on fait pas de la bouffe élitiste, hein, mais je pense que c'est vraiment une autre approche en fait dans la vie. L'alimentation, c'est quand même une bonne part de la santé aussi. Donc tu peux cuisiner super simplement avec des légumes, ça coûte vraiment pas cher et tu peux manger très très bien quand tu vois le prix des plats préparés et tout le prix que ça coûte humainement. Enfin, si toi tu payes pas, quelqu'un le paye de toute façon. Il n'y a pas d'aliments chers, il y a des aliments qui ont un coût et si c'est pas toi qui le paye en l'achetant, ben c'est ou les animaux qui l'ont payé, ou les gens qui l'ont produit, ou après la planète avec le recyclage des emballages en plastique et autres cartons. Donc, il faut quand même savoir que tout a une valeur et qu'à un moment, il faut être réaliste sur la valeur des choses. Voilà. Et respecter le travail de ceux qui produisent la nourriture.
Pour les respecter, il faut déjà savoir qu'ils existent. Il est rare que l'on entende des agriculteurs et agricultrices œuvrant sur de petites exploitations, à moins que vous ne fassiez la démarche d'écouter seulement des médias alternatifs qui mettent justement l'accent sur ces personnes. Toujours est-il que Marie est agacée d'entendre, selon elle, toujours la même femme qui parle d'agriculture sur les antennes nationales, à savoir Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Alors, je lui ai demandé si on pouvait avoir une influence sur le modèle dominant en donnant la parole à des femmes, toujours sous-représentées dans les médias, des agricultrices en l'occurrence, qui ont une vision différente de la profession et de sa pratique.
Bah, le modèle, c'est un modèle FNSEA, hein, c'est celui qu'on apprend à l'école. Moi, quand j'étais en BTS, la coopérative est venue intervenir dans la classe. Bon, je trouve un peu limite, quoi. Donc oui, le discours dominant, c'est avoir un gros tracteur, et etc. Après, si tu cherches un peu, je suis quand même pas mal de meufs qui sont installées en agriculture et qui sont toutes bien vénères, hein, et bien féministes et qui mouillent le maillot vraiment, quoi. Donc, qui ont des autres idées, qui montent des autres projets. Bah parce que aussi, à un moment, quand on te laisse pas la place, tu montes autre chose, hein. Et l'autre chose, eh ben, ça peut être super. Donc, ça peut être super, c'est super. Ça peut pas être, ça l'est. Après, le discours dominant, on sait lequel c'est. Hein. Voilà, si t'es une meuf, il faut que tu sois bonne et soumise. Et si t'es un mec, il faut que tu sois blanc et hétéro. C'est toujours pareil, hein. C'est valable partout. Hein. Puis alors, je te raconte pas quand tu te trouves en BTS avec 20 mecs, ou fils de paysan ou futur paysan, l'ambiance, elle est intelligente. Voilà, donc c'est cool d'écouter les petits et d'écouter ceux qui ont moins la parole, d'écouter les femmes et d'écouter des petits projets, parce qu'on a des choses à dire.
D'où notre invitation pour le festival écoféministe EB. EB oui, elle était ok pour venir, Marie Fischer, et elle nous dit pourquoi.
Bah parce que déjà sur les Landes, un festival féministe, c'est le premier qu'il y a, donc c'est vachement chouette. Et parce que dans le féminisme, il y a quand même plein de... pas de courants, mais il y a quand même pas mal d'idées différentes. Et oui, tu vois, il y a des féminismes un peu plus bourgeois, il y a des féminismes vraiment anarchistes. Et moi, j'avais envie d'amener un peu ce côté en colère là, même si je débute aussi dans cet aspect militant. Hein, mais je suis très très en colère. J'avais envie de le dire, quoi. Et après, débattre avec des autres gens, c'est toujours super intéressant. Hein. Surtout quand c'est des gens qui sont journalistes et qui ont vraiment du temps, si tu veux, pour étudier ça et pour se poser des questions. Moi, j'ai du temps, mais j'en ai pas non plus à mort. Enfin, c'est difficile pour moi de théoriser ma pensée, déjà parce que je suis pas super à l'aise avec ça, et en plus parce que j'ai pas non plus du temps comme quelqu'un qui est chercheur ou professeur. Voilà. Mais je pense que ma parole a quand même qui représente celle des paysans, hein, pas forcément ce que moi j'ai à dire, mais la parole des femmes paysannes a une valeur, et même si on n'a pas forcément le temps pour la développer, pour que ce soit audible, c'est quand même intéressant d'écouter ce qu'on a à dire.
Pour écouter ce que Marie Fischer a à dire, vous pouvez toujours le faire sur le site de Radio MDM en retrouvant les podcasts de La Main au Panier. Avec son fidèle associé Clément Baillet, elle nous raconte un tas de choses intéressantes sur la paysannerie, les races locales, le fromage, la vie quoi. Alors pour clôturer cet entretien, et comme d'habitude depuis le 11 mai, je lui ai demandé quelle était sa vision du jour d'après.
Pas forcément la même chose que Manu du coup, hein, ça serait pas le même jour je pense, mais... qu'est-ce que j'aimerais voir le jour d'après ? Ben moi j'aimerais qu'il y ait des gens qui puissent s'installer en fait, parce que nous on commence à... Enfin, nous on fait tout à l'inverse en fait, les gens ils sont dans la compétition, nous on est plutôt... là on a manqué de fromage donc on a envoyé des clients à nos voisins d'à côté quoi. Mais je pense que ça devrait être comme ça tout le temps. Il y a de la place pour tout le monde. Et il faut nourrir les gens. Enfin, construire de lotissements, c'est pareil, c'est bien beau. Mais à un moment, tout le béton que tu mets en place, c'est de la terre agricole en moins. Donc il faut quand même continuer à penser à comment on va nourrir les gens, quoi. Et à la campagne, on a quand même de la place. Même si l'Europe considère pas que la ronce, le bois et les jachères sont des terres utilisables par les animaux, ben en fait, c'est complètement utilisable par les animaux. Même si l'INRA n'est pas capable de fournir de données sur la valeur alimentaire du genêt, ben c'est quand même un truc que les animaux mangent. Donc j'aimerais bien que ça change et qu'on puisse s'installer, être encore plus nombreux, et que des projets comme la Tout Fermier, des projets d'entraide entre paysans, donc de mutualisation d'un local de vente qui nous permet aujourd'hui d'avoir un salaire un peu fixe, d'assurer un peu l'avenir de la ferme, que ça existe ailleurs pour d'autres gens. Parce que c'est difficile quand t'es agriculteur d'avoir un... Bah, on a quand même tous des loyers à payer, hein. Moi j'aimerais bien vivre juste de ce que je produis et d'eau fraîche, mais on a quand même des loyers à payer, donc... C'est bien tous les mois d'avoir un petit truc fixe, donc le magasin nous le permet. Et ça serait bien que d'autres projets comme ça aboutissent. C'est le cas, hein, parce qu'il y en a d'autres qui se montent dans les Landes. Mais il y a de la place pour faire ça, et de l'entraide, c'est super important. La coopérative, à la base, c'était ça. Ça a un peu changé maintenant, hein. C'est plus vraiment ça, parce que ça s'est capitalisé, qu'il y a des mecs qui mettent la céréale en bourse, etc. Donc c'est complètement de l'intégration. Mais à la base, l'idée, c'était ça, c'était de se mutualiser. Et je pense que c'était une bonne idée. Il faut juste pas qu'elle dérive. Et il faut garder des petites structures pour que ça dérive pas. Voilà, il faut être petit. C'est super important.
Merci Marie Fischer.
Merci Margot Labarthe.